Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
On va prendre un texte tout simple, et c'est un verset biblique que vous avez lu et relu dans l'Ancien Testament. C'est un homme qui est connu de tous, universellement connu. Alors, il s'appelle Moïse, vous avez entendu parler de lui, non, peut-être? Oui, quand même. Je voudrais simplement prendre un verset, et je pense que ça peut s'adresser à nous, nous les anciens, parce que nous avons l'expérience de la vie. Je ne rapporterai peut-être pas ce texte dans une réunion de jeunesse, ou peut-être différemment, mais les temps ont passé, nous avons, pour certains, quelques décennies derrière nous, et je pense que l'expérience de la vie nous a appris certaines choses. En tous les cas, il y a la vie avec Dieu et la vie sans Dieu, et Moïse était un homme qui avait vraiment Dieu dans sa vie. Et il nous a rendu un témoignage dans le livre des Nombres, je lis simplement, au chapitre 12 et au verset 3, il nous est dit que Dieu a entendu Moïse. C'était un homme qui priait Moïse. Et il est ajouté, « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. » Je vais le relire. « Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Il y a une qualité que j'aimerais souligner dans ce personnage, qui est un personnage atypique, Moïse, un grand homme de Dieu, un homme de foi, c'est que, il avait une particularité qui était probablement propre à son âge. Vous pouvez peut-être vous rappeler à quel âge Moïse a commencé sa carrière. 80 ans, et il est mort à 120 ans. À vous mettre les caisses de retraite en faillite immédiatement. Voilà. Non, mais c'est vrai, quand même. Quand même. Mais toujours est-il que si je traduis ce mot « patient », je dirais que Moïse était l'homme le plus doux de toute la terre. Que c'était, comme Jésus nous le dit dans le Sermon sur la montagne, c'était un débonnaire. La débonaïté, c'est la qualité, tout simplement, de cette grande douceur qui caractérise le caractère. Et il nous est simplement rappelé que Jésus nous dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Et non seulement Moïse a hérité pour lui-même cette terre d'Israël, le pays où coule le lait et le miel, mais il a permis à un peuple entier, comme nous le voyons encore aujourd'hui, près de 3000 ans après, finalement de faire bénéficier de ce don de Dieu, et en raison, certainement, de son tempérament, de son caractère doux, patient. Et je pense que il revêt un caractère d'exception, Moïse. Un caractère d'exception. Parce que je pense que nous qui sommes des croyants, qui croyons en Jésus-Christ, qui avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, qui sommes nés, si vous le permettez, parce que c'est un terme très évangélique, nés de nouveau, surtout j'insiste, avec une nouvelle vie, il y a eu pour nous, pour chacun d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, comme dans les livres d'histoire. Et notre vie a été changée, transformée. Et nous pouvons dire que, quelque part, lorsque nous regardons l'histoire de Moïse et que nous la voyons en diagonale, on ne va pas rentrer dans les détails, parce qu'autrement on ne mange pas ce midi, vous m'arrêtez si jamais je dépasse. Mais toujours est-il que son histoire est une histoire extraordinaire, d'un homme où l'on peut dire avant Dieu et après avoir connu Dieu, parce qu'on le situe dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Vous savez que Moïse, lorsqu'il était tout petit, a été sauvé des eaux. Et le nom de Moïse, ça veut dire « sauver des eaux ». Alors, on connaît tous l'histoire. Si vous avez regardé cette grande fresque, les 10 commandements, il y a toute sa vie. Et je pense que c'est quand même pas trop mal fait. C'est assez fidèle au texte biblique. Donc, il a commencé par finalement avoir une menace d'être mis à mort. C'est terrible. Et puis, il est devenu d'une manière tellement incompréhensible, enfin compréhensible, mais inimaginable, il est devenu le prince d'Israël. Il a été élevé dans le palais de Pharaon. Il a été élevé dans toute la sagesse et la science des Égyptiens. Imaginez-vous ce que ça veut dire. C'était l'empire le plus grand de l'époque, avec une civilisation extraordinaire qui était l'Égypte, et certainement initié à toute cette culture qui était à une culture, c'est vrai, où il y avait là, eh bien, tout ce qui peut être caractéristique à l'humanité, mais également, n'ayons pas peur de le dire, avec toutes ces sciences occultes, avec la magie. Et il a été élevé dans ce contexte, imaginez-vous, hein, c'est quelque chose. Donc on pourrait pas s'imaginer qu'il est devenu ce qu'il est devenu après avoir passé par cette expérience. Prince des Égyptiens, il a passé 40 ans dans comme prince dans le palais de Pharaon. Et puis à un moment donné, Dieu l'a mis à son école, il lui a dit maintenant, ça y est, il est temps, j'ai quelque chose pour toi. Comme Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous, figurez-vous. Il y a peut-être un certain parcours qui a été déjà parcouru, mais il n'est jamais trop tard pour commencer à servir Dieu. On le voit, et il va passer 40 ans comme berger dans le désert. Et c'est là où il aura la formidable révélation de ce buisson ardent, où Dieu va lui parler, et Dieu va lui donner son nom. Il va dire, parce que Moïse va lui dire, mais comment t'appelles-tu? Et Dieu lui dira, je suis celui qui suis, parce que Dieu est éternel. Dieu est celui d'hier, il est celui du moment, et il est celui de demain. Pour l'éternité, naturellement. Ça, c'était l'école de Dieu. Il était berger dans le désert, il a appris des choses dans le silence. Il est devenu prophète, figurez-vous. Et il a apporté la pensée de Dieu. Pensée de la délivrance pour le peuple hébreu qui souffrait. Cette vision, cette perspective qu'il avait, il a su la communiquer pour qu'un peuple entier soit libéré. Et puis, il faut dire que, ensuite, sur le mont Sinaï, il est devenu le grand législateur. C'est lui qui a reçu les 10 commandements. Tout ça, c'est de l'histoire connue. Et il est devenu, finalement, à l'âge de près de 80 ans, il a commencé vraiment sa carrière, pendant 40 autres années, comme le fondateur du peuple hébreu, Israël, qui subsiste toujours. Hein. On en entend parler de temps en temps. On entend parler tous les jours, hein, naturellement. Et on peut dire que la vie de Moïse a été une vie pleine d'actions héroïques et miraculeuses, hein, à travers tout ce que nous rapportent eh bien, les livres de la Bible. Et c'est pourtant, c'était le choix de Dieu. C'était le choix déterminé de Dieu, parce que quand Dieu l'a appelé, Moïse, c'était un homme violent et irascible. Et je voudrais le souligner, c'est que notre Moïse que nous connaissons et que quelquefois nous disons c'est un grand homme, c'est un géant de la foi, eh bien c'est un homme qui était un meurtrier, il avait tué un autre homme, parce qu'il ne supportait pas certaines choses. Et comment peut-on lire cette parole? Moïse était l'homme le plus patient et le plus doux et le plus débonnaire de toute la terre. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et voyez-vous, ce que nous faisons dans cette église, et je voudrais le dire pour nos amis qui nous rejoignent, c'est qu'il y a là toujours une proposition qui n'est pas une proposition religieuse, qui n'est pas une philosophie de caractère religieux. Mais c'est avant tout une rencontre avec Dieu. Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et ensuite, toute sa vie a été transformée et changée. Et ce qui est à dire, c'est que de cet homme violent, de cet homme irascible, de ce meurtrier, Dieu en a fait une nouvelle créature. Et je voudrais le souligner, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour s'approcher du Seigneur. Il y a des enfants qui s'approchent du Seigneur, il y a des adolescents, il y a des jeunes gens, des jeunes femmes, il y a des gens dans l'âge du milieu de la vie qui se tournent vers Dieu. Mais il y a aussi des personnes âgées, voire peut-être même des vieillards, qui à un moment ou un autre de leur existence, eh bien comprennent que pour être sauvé, pour avoir l'éternité, eh bien il faut donner son cœur à Jésus. Et ça c'est important. Et Moïse était cet homme-là. Et son histoire, eh bien, nous est rapportée d'une manière tout à fait particulière. Et le témoignage final que nous avons, et que je relis encore, parce que j'insiste, Moïse était l'homme était fort patient, doux, débonnaire, plus que aucun autre homme, finalement, sur la surface de la terre. Si nous avions connu Moïse dans ses premières années, on aurait dit, mais celui-ci ne se convertira jamais, il ne se tournera jamais vers Dieu. C'est pas possible. Mais je voudrais le signaler, le rappeler, c'est que ce qui est impossible aux hommes eh bien ça devient possible pour Dieu. Dieu est le Dieu de l'extraordinaire et celui qui est capable de changer la vie complètement et totalement. Peut-être parmi nous, nous avons des amis qui se disent, après avoir parcouru, je ne sais, 50, 60, 70 ans, peut-être davantage, de dire, mais j'ai toujours traîné dans ma vie certaines choses qui sont peut-être restées secrètes, mais qui, quelque part, eh bien, font comme une désespérance en disant, mais ça aurait pu être autrement ma vie, mes choix auraient pu être autrement. Eh bien, moi, je voudrais vous dire que vous n'êtes pas arrivé trop tard et qu'il est toujours temps, finalement, de se tourner vers Dieu, de lui demander pardon, ce qu'on appelle la repentance, et de demander à Dieu qu'il nous change, qu'il nous transforme complètement et totalement. Donc, nous voyons que Moïse est passé de la douceur, de l'extrême, agressivité, nous pouvons dire, parce que quand on est un meurtrier, c'est qu'il y a de l'agressivité, on ne fait pas les choses autrement, eh bien, à la douceur de l'esprit. Transformé entre les mains du divin sculpteur. Et je vais vous raconter une histoire, si vous voulez. Vous aimez les histoires? Oui? Parce que les enfants, ils aiment bien ça. Mais à tous les âges, on aime les histoires. Et pour cela, simplement, je reprendrai un texte, mais simplement, je vais le lire. C'est un verset, hein. Simplement pour nous montrer qui nous sommes, d'où nous avons été tirés, ce que Dieu veut faire de nous. Écoutez. Le Seigneur l'Éternel m'a donné... Pardon, je me trompe. C'est l'autre. Écoutez-moi, vous qui... Il y a quelques pages dans la Bible, hein, vous voudrez bien m'excuser. Hein. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes quand même. Hein. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où je vous ai taillé. Et si nous avons ce sens de la justice, ce sens de la vérité, si nous avons faim et soif de quelque chose d'autre, que la vie ne nous a jamais donné, que le monde ne nous donnera jamais, que si nous aimons, eh bien, justement, cette dimension, si nous avons la curiosité de savoir s'il n'y a pas autre chose que ce que nous connaissons, ce qui est visible, alors à ce moment-là, Dieu nous dit, mais... Souvenez-vous d'où je vous ai tiré, du rocher dont je vous ai taillé. Et c'est l'histoire, finalement, eh bien, du sculpteur. L'histoire prodigieuse du sculpteur. On connaît les Rodins et puis bien d'autres, hein, César et d'autres qui se sont illustrés dans, finalement, les siècles. Et le sculpteur, d'abord, je voudrais vous dire qu'il a la vision de ce qu'il va faire. Comme Dieu a la vision de ce qu'il veut faire avec nous. Parce qu'il le sait déjà, ce que vous êtes. Et il sait que votre histoire, il connaît votre passé, il connaît votre présent, mais il connaît déjà votre avenir. Et le sculpteur, lui, quand il commence à prendre et rassembler ses outils, eh bien, il a la vision du travail déjà achevé, comme si c'était fait. Naturellement. Je dirais qu'un sculpteur, c'est un créateur. En son genre, petit créateur, mais créateur quand même, il a dans sa tête la forme qu'il va donner. Il a déjà l'attitude qu'il va donner à son personnage ou à autre chose, je ne sais pas. Alors, il va prendre un grand bloc de granit. Vous savez que le granit, c'est pas mou, hein. C'est plutôt dur, hein, granit. Prenons le granit, par exemple. Et il va le prendre brut. Il va le prendre informe, un grand bloc, tout simplement. Et nous nous apercevons que il l'a choisi. Je t'ai appelé, nous dit Dieu. Il nous a choisi, il nous a appelé, comme le sculpteur, lui, fait son choix. De la matière première dans laquelle il va commencer à travailler. Et puis, il a de l'outillage. Il a de l'outillage, il a des ciseaux. Et c'est quand même des instruments qui sont indispensables, naturellement. Il a un maillet, et il va faire ça, il va faire 1 000, 10 000, 100 000 gestes comme ça, à répétition. Il a des poinçons aussi. Ça, c'est son outillage. Il a quelque chose dans les mains, naturellement. Et puis, il va travailler quotidiennement. Jour après jour, ça va devenir même une obsession. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, vous savez, une passion. Parce que c'est un artiste. Parce que c'est un sculpteur, tout simplement. Et il va dégager ce que j'appellerais, vous me permettrez, je ne suis pas un sculpteur ni un artiste, mais il va dégager la carapace. C'est-à-dire, tout ce qui fait que, eh bien, le bloc de pierre, il est ce qu'il est, finalement. Mais informe. Il va dégager la carapace. Et apparaît, à un moment donné, eh bien, il va commencer à se dessiner une silhouette. Il va y avoir le dessin d'une forme vague dans un premier temps. Quand on regarde, on se dit, mais où il va? Où il veut en venir? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça commence à prendre forme, tout simplement. Et puis, il va affiner avec son art, avec ce qu'il a en tête, le but final qu'il veut se donner, il va affiner tout simplement son ouvrage. Et voilà qu'à un moment donné, un jour ou l'autre, eh bien, va se dévoiler un homme en position de prière. Figurez-vous, c'est moi qui l'ai dit, hein, moi qui l'ajoute. On reste dans le contexte d'une réflexion spirituelle. Et cet homme a le regard tourné vers le ciel, implorant tout simplement la grâce divine. C'est la statue que je voulais faire. Hein? Mais voilà la chose qui se concrétise. Et quand on la regarde, on s'aperçoit que la statue, elle est parfaite, elle est finie. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à redire. Tout a été, eh bien, exécuté. Et ce que je voudrais vous dire, tel est l'ouvrage de Dieu dans les vies des hommes. Tel est l'ouvrage du Seigneur dans nos vies d'hommes et tout ce qui n'est pas statue, c'est-à-dire fini, concrétisé, a été enlevé patiemment au fur et à mesure pour ne laisser voir tout simplement qu'un véritable chef-d'œuvre. Et moi je dis que Dieu, quand il appelle des hommes et des femmes et comme il nous appelle les uns et les autres, il veut faire de nos vies un chef-d'œuvre. Alors c'est vrai, vous allez me dire, on vieillit, on est peut-être un peu moins bon lorsque nous avions 20 ans, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui doit révéler véritablement eh bien, notre communion avec Dieu. C'est ça être chrétien. Ce n'est pas d'avoir tout simplement les formes extérieures, parce que Jésus va dénoncer vigoureusement l'hypocrisie religieuse et la tradition religieuse. Mais c'est être transformé. Eh bien, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est pour dire que Moïse était l'homme le plus doux, le plus débonnaire, le plus patient de toute la terre. Et le divin sculpteur, eh bien, a taillé dans Moïse parce que c'était un roc, Moïse. Et nous nous apercevons qu'il y a peut-être une prière à faire derrière tout cela. Et cette prière serait celle-ci. Enlève, Seigneur, en moi, tout ce qui n'est pas à toi dans ma vie. Et c'est ça, justement, ce que nous appelons la vie chrétienne. Le Seigneur nous appelle et le Seigneur nous transforme et il va faire de nous une nouvelle créature en quelque sorte. Alors on ne parlera plus de toute cette carapace qui aura disparu, mais il n'y aura plus qu'une belle statue. Mais alors la statue elle est vivante en ce qui nous concerne, hein, parce qu'il y a le souffle de Dieu en nous, il y a la vie de Dieu en nous. Peut-être les amis qui nous rejoignent en disant « mais c'est bizarre parce que je me reconnais pas, ça n'a pas l'air d'être une église, ça n'a pas l'air d'être avec le symbolisme, hein, pas de statue, rien du tout ». Non, mais la vie, la vraie vie dans nos églises, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de nous-mêmes, et vous l'avez vu à travers nos cantiques. La spontanéité dans laquelle nous chantons le Seigneur, et nous le faisons avec joie, malgré que nous pouvons avoir, comme le reste des hommes, des soucis, des problèmes, des difficultés, mais la vraie vie, elle est à l'intérieur de nous-mêmes. Le divin sculpteur a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors, nous avons cette réflexion naturellement, et je vais bientôt terminer. Nous voyons que la qualité de la vraie foi, si vous me permettez de l'ajouter, c'est d'allier la douceur à la fermeté d'esprit, à la résolution du cœur avec le sens de la responsabilité. Ça, c'est tout Moïse. Ça, c'est tout Moïse. Un homme qui a été pris finalement à l'état brut et qui est devenu l'homme le plus doux de toute la terre. Parce que c'était un responsable. Il savait ce que voulait dire l'appel de Dieu. Parce qu'il savait allier cette douceur qui n'est pas la douceur d'un caractère naturel, mais d'un caractère qui est celui de la vie de l'esprit en nous. Le Seigneur est venu frapper à notre porte pour nous dire et nous demander si nous voulions l'accueillir dans notre vie. Lui donner toute la place dans nos cœurs, lui donner toute la place dans nos décisions, dans nos choix. Mais vous savez, quand le Seigneur vient dans la vie d'un homme, eh bien tout est changé, tout est transformé. Nous le chantons très souvent à travers nos cantiques. De la douceur naturelle, qui c'est une disposition de notre tempérament. Il y a des gens qui sont dus naturellement. Ça, c'est vrai. Faut pas le dire autrement. Mais au fruit du Saint-Esprit, la Bible nous parle qu'il y a un fruit. Il y a 9 fruits dans l'esprit. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la douceur, la bonté, la foi. Enfin, il y en a d'autres comme ça. Et ça, c'est Dieu qui nous transforme au fur et à mesure. Et c'est le but finalement du message de l'Évangile. Ça, c'est quelque chose de tellement important. Et c'est une victoire sur notre tempérament et notre caractère naturel, quand Dieu nous transforme. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau lorsque nous voyons un homme et une femme qui atteint finalement l'aboutissement de son existence. Que ce soit là, eh bien, 70 ans, 80 ans, davantage. Où l'on voit que finalement toutes les passions et toutes les rigueurs ou toutes les aspérités de la vie ont disparu pour devenir un être doux, un être qui aime. Un être qui sait aussi parler aux autres, qui sait consoler les autres, qui sait donner de bonnes paroles. La douceur. Jésus nous dit « Je suis doux et humble de cœur ». Ça, c'est une vérité aussi, hein. Et il veut que nous lui ressemblions. Et je pense qu'il est temps. C'est vrai, peut-être. Après toutes ces obligations de la vie, où peut-être nous avons été ce que nous avons été, mais de dire, eh bien, Seigneur, change-moi, Seigneur. Donne-moi, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi une nouvelle disposition. Parce que vous le savez aussi bien que moi, comme nous le trouvons dans l'Évangile, sous la plume de l'apôtre Paul, c'est que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si nous lui demandons que son bon plaisir soit fait en nous, ben il créera le vouloir, la volonté et le faire, c'est-à-dire l'accomplissement. Et ça, je crois que c'est important. Moi, j'aime bien le caractère de Moïse parce que Dieu n'a pas été chercher un agneau, un doux, il était cherché un homme qui était colérique et irascible, comme l'apôtre Paul, comme Pierre également, pour en faire eh bien, un homme complètement changé et transformé. Et nous voyons qu'il y a là tout un message pour chacun d'entre nous. Je dirais, comme quelqu'un l'a dit, c'est que la violence, c'est l'excitation des faibles. Ouais. La violence, c'est l'excitation des faibles, qui s'agitent, qui cognent, qui font toutes sortes de choses, qui passent à travers des portes fermées, qui cassent des murs, etc., etc. Alors on dit, ils sont forts. Non, ce sont des faibles. Mais par contre, la douceur, c'est la maîtrise des forts. C'est le sermon sur la montagne. Ce sont les béatitudes. Et Moïse est passé par là. De fort qu'il croyait être, Dieu l'a amené à son école pour devenir faible, et quand il s'est senti faible, c'est Dieu, à ce moment-là, qui lui a donné la force. La force d'être fort, mais la vraie force. Et nous vivons dans un monde, et nous le voyons autour de nous, et c'est affligeant, c'est décourageant, c'est pitoyable, lorsque nous voyons ce qui s'y passe, les guerres ici, les guerres là, à travers tous ces réfugiés qui arrivent d'une manière ou d'une autre, à travers cette indifférence quasi mondiale, nous pouvons dire, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des options tout à fait différentes de ce qui se passe. Hein? Mais une chose qui est certaine, c'est que le monde ne marche que par la force et la violence. Et tant que le monde sera dans ce caractère-là, il n'y aura jamais de paix sur notre terre. Ce n'est pas de changer la société, ce n'est pas de changer de régime, ou de culture, ou tout ce que vous voudrez. Ce qui est important, c'est que le cœur de l'homme soit changé. Et quand le cœur est changé, tout change. Tel un homme comme Moïse, qui était devenu l'homme le plus doux de la terre. C'est ça la leçon que nous avons besoin de comprendre. Tel ainsi était Moïse, et tel le témoignage qui nous est rapporté à la fin de sa vie, pour nous dire que c'est un homme qui s'est laissé empoigner par Dieu pour devenir un autre homme, une autre personnalité. Je termine par l'exemple de l'apôtre Pierre. Pierre, c'était un coriace. C'était un roc. C'était un caillou, Pierre. D'ailleurs, son nom s'efface, c'est ce que ça veut dire. Ouais. C'était une pierre que roulait, hein, dans tous les sens. Hein. Une personnalité. Quelqu'un qui était capable de s'affirmer, quelqu'un qui était capable de parler au nom de tous les autres à Jésus, explique-nous ceci, dis-nous ceci. Il s'est ramassé quand même pas mal de bosses, hein. L'apôtre Pierre, on le voit. Mais la dernière bosse qu'il a pris, elle était sérieuse, celle-là. Vous savez de comment ça s'est passé? Oui. Vous savez que Pierre finira par se repentir. Il connaissait Jésus, mais il a commis une trahison, hein, par peur. Par crainte, il finira par se repentir et survivra finalement à son reniement grâce à la douceur du regard de Jésus dans le temple et dans la maison du sacrificateur, la douceur de Jésus. Vous savez, mes amis, laissons-nous influencer par la douceur de Jésus, par la parole douce de Jésus. Parce que Jésus n'est jamais venu, eh bien là, souffler sur le lumignon qui fume ou casser le roseau qui est brisé. Au contraire. Et je crois que notre monde a besoin, véritablement, eh bien, de comprendre que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, comme dit l'ancien prophète, mais par mon esprit. Et ce matin, ce que nous entendons, c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est l'histoire biblique. C'est l'histoire de Jésus, c'est l'histoire de l'Évangile, et ce que le Seigneur nous demande de comprendre ce matin, quelle qu'était notre vie, quel qu'était notre tempérament et notre caractère, les erreurs ou les bêtises que nous avons faites, le Seigneur nous dit, viens à moi. Approche-toi. Tu es chargé et fatigué de tous ces fardeaux, de ces combats et de cette vie. Mais moi, je suis capable de te transformer, de te changer. Et c'est ça l'espoir que nous avons besoin dans notre monde, mais aussi dans nos églises. Et pour chacun d'entre nous, le secret, c'est la foi. Et le secret, c'est la foi, tellement la foi que je voudrais simplement terminer avec ce passage que je vais vous relire. Écoutez bien ces quelques versets. Écoutez bien, c'est toute la vie de Moïse. C'est par la foi que Moïse alla à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, sur ce que Dieu donne. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Écoutez bien, c'est ça ce que je voudrais vous dire. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Je le dis souvent dans les messages, les gens qui nous rejoignent, parce qu'il y en a, pratiquement à chaque réunion, des gens qui poussent la porte de cette porte, qui ne sont jamais venus dans une église comme celle-ci, et qui entendent le message. Il nous est dit qu'il se montra fort, comme voyant celui qui est invisible. Notre Dieu est un Dieu invisible. On n'a pas besoin de le mettre en statue. On n'a pas besoin de faire des effigies, de faire des images, etc., etc. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Ça, c'est la vérité. Et ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes, c'est très interne, c'est très intériorisé, mais voyant comme celui qui est invisible. Dieu est invisible, mais il est présent. Moi, je crois que le Seigneur est présent au milieu de nous et qu'il veut vous bénir cet après-midi, ce matin. Qu'il veut vous donner ce dont vous avez besoin, une simple prière. Seigneur, toi, le divin sculpteur, enlève tout ce qui n'est pas de toi en moi. Et le Seigneur va le faire. Ne désespérez pas. Ne renoncez pas. Ne laissez pas vous laisser suggérer que finalement vous n'avez pas réussi votre vie et que c'est fini. Non, nous pouvons réussir à tous les moments si nous laissons Dieu et que nous demandons à Dieu, comme les disciples dans la tempête sur la barque, de monter dans notre barque, de venir dans notre vie. Eh oui, c'est ça, hein. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi, c'est une perception des choses qu'on ne voit pas et qui se révèle comme, eh bien, authentique. La foi nous conduit au changement. Oui. Transformation de notre vie et de notre caractère. Alors, Moïse était l'homme le plus doux de toute la terre. Il n'a pas toujours été, mais il est devenu. Et aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, nous pouvons dire, Seigneur, je viens à toi, ce qui sera le sujet de notre prière. Je viens à toi tel que je suis. Seigneur, j'ai certainement commis des erreurs, j'ai fait des fautes. Je me suis trompé dans maintes et maintes situations. Peut-être que je n'ai pas toujours aimé comme il fallait aimer. Peut-être que je n'ai pas été gentil ou aimable. Peut-être que j'ai critiqué. Peut-être que j'étais même avec de la haine et du ressentiment dans mon cœur. Mais je ne veux plus rester comme ça. Seigneur, je ne veux plus rester comme ça. Alors Seigneur, je te demande de prendre tes ciseaux, de prendre ton poinçon, de prendre ton maillet, non pas pour m'écraser, hein, parce qu'il n'y a pas de condamnation quand on croit en Jésus-Christ. Mais Seigneur, eh bien, tu extirpes tout ce qui n'est pas de toi en moi. Alors le Seigneur va le faire, parce que c'est certainement une prière qui est agréée de Dieu et dont Dieu, eh bien, exauce. Alors que le Seigneur nous bénisse. Vous vous souviendrez de Moïse? Il était, mais il est devenu un autre homme. Et chacun d'entre vous, eh bien, le Seigneur vous appelle à devenir de nouvelles personnalités, de devenir de nouvelles personnes et de changer finalement notre vie. Et d'être heureux d'être ce que nous sommes, parce que je voudrais quand même vous l'affirmer avant que je termine, c'est qu'on est heureux en Jésus-Christ. On est heureux en croyant en Jésus-Christ. On est heureux lorsque nous avons l'Évangile tous les jours dans notre vie. Et ça, c'est quelque chose de formidable. La foi, ça rend joyeux. Eh bien, que Dieu nous bénisse et nous allons simplement terminer. Et puis après, nous continuerons à chanter un ou deux cantiques et puis quelques annonces également. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour l'exemple de Moïse. Merci pour l'exemple de Pierre, parce que nous croyons, Père éternel, que la force ne mène à rien, que l'autoritarisme ne mène à rien, que la violence ne mène à rien, mais la douceur, elle est capable de faire fondre les cœurs les plus endurcis. Et nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, de nous avoir donné, dans la personne de Jésus, celui qui était appelé l'homme doux et humble de cœur. Seigneur, tu nous bénis les uns et les autres. Pour mes frères et mes sœurs qui sont là, eh bien c'est vrai que nous avons une réunion de seniors et nous avons la mesure de toute notre vie passée, ce que nous avons été, ce que nous avons dit, ce que nous avons, eh bien là, en effet, pratiqué peut-être d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, tu nous appelles véritablement avant le grand jour, eh bien Seigneur, à nous tourner vers toi pour te dire Soit, Seigneur, tu continues ton œuvre en moi, ou Seigneur, tu commences ton œuvre en moi. Et nous te bénissons et nous te remercions. Moi, je te prie pour mes amis. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont plus âgés que moi. Je te prie pour, en effet, chacun d'entre eux, dont nous avons du respect parce que, pour certains, ce sont nos parents spirituels. Eh bien, nous voulons te demander que véritablement tu leur fasses du bien. Que l'Esprit de Dieu puisse, eh bien, là, visiter leur cœur, leur âme, leur esprit, et qu'ils puissent dire, eh bien, Seigneur, toi, le divin sculpteur, tu fais de moi véritablement, comme nous l'avons dit, eh bien, là, une nouvelle créature. Et c'est Dieu qui est capable de faire cela. Ce n'est pas nous, ce n'est pas la religion, ce n'est pas notre piété, ce ne sont pas nos efforts humains, mais c'est l'œuvre de Dieu, et cette œuvre-là, elle est miraculeuse. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-sanazaire.fr.